Europe 1.
14h, 15h.
Clap. Laurie Choleva.
Bonjour, bienvenue sur Europe 1 dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que vous êtes en forme pour profiter du week-end. Nous sommes ensemble pendant près d'une heure et épaulés de mes spécialistes, je passerai en revue l'actualité du 7e art. Quelles sont les news incontournables de la semaine ou encore quels sont les tournages en cours? Didier Alouche, notre expert cinéma outre-Atlantique, nous livrera son JT d'Hollywood. Et dans la dernière partie, nous vous parlerons des films à voir ce week-end dans les salles obscures. Notamment Gogo, documentaire bouleversant sur la plus vieille écolière du monde. Gogo, âgée de 94 ans, qui vit dans un village reculé au Kenya et qui a décidé d'intégrer une classe de CM2 pour apprendre à lire et à compter. Une véritable leçon de vie et de courage.
Combien font 4 fois 3 ?
60.
Concentre-toi un peu, Gogo.
J'ai du mal à entendre.
Aujourd'hui, pour mon grand entretien, j'aurai le plaisir d'accueillir un pensionnaire de la comédie française, un comédien aussi à l'aise dans Papa ou Maman que dans Elle, de Paul Verhoeven. C'est Laurent Lafitte qui nous parlera de L'Origine du Monde, son premier long-métrage en tant que réalisateur, un film décalé qui renouvelle l'humour français. Et lorsque je lui demande sa première grande émotion au cinéma, écoutez sa réponse.
E.T. de Steven Spielberg.
Chef-d'œuvre.
Chef-d'œuvre.
Film de 1982.
1982, voilà, donc j'ai 10 ans.
Voilà pour le sommaire de votre clap qui démarre maintenant.
Europe 1.
14h, 15h.
Clap. Laurie Choleva.
Merci d'être avec nous sur Europe 1 au rendez-vous de Clap. C'est un plaisir pour moi de vous parler cinéma et vous éclairer sur les films incontournables. Nous sommes le samedi 4 septembre, vous êtes peut-être en voiture, au travail ou à la maison. Mais si vous nous écoutez, ce qui est sûr, c'est que vous aimez le cinéma. Alors j'ai quelques news pour vous. Déjà une belle sortie en perspective avec le tournage qui a débuté lundi des Volets Verts, le nouveau film de Jean Becker d'après un scénario de Jean-Loup Dabadie avec, attention, Gérard Depardieu et Fanny Ardant. Un duo de cinéma qui fut réuni, je vous le rappelle, pour la première fois en 1981 par François Truffaut avec La femme d'à côté.
Elle est presque la même quand je t'ai connue.
Ah, non, elle était plus courte.
Parce que t'étais plus petite.
Mais non, idiot, c'était la mode qui était plus courte.
C'est la rentrée des classes cette semaine pour les enfants, certes, pour vous parents, sûrement, mais c'est aussi la rentrée pour les festivals de cinéma. Le festival du film américain de Deauville bat son plein, celui d'Angoulême s'est clôturé le week-end dernier et la Mostra de Venise est en effervescence. Franck Vallière, vous êtes journaliste cinéma, pouvez-vous nous expliquer cette valse des festivals cinéma d'entrée de saison ?
Eh bien écoutez, ça amène déjà de la culture dans la région, ça c'est toujours positif, il n'y a pas que Paris dans la vie.
C'est vrai, et ça prolonge un peu les vacances d'été.
C'est vrai. Et puis en plus, il y en a de plus en plus. C'est-à-dire que rien que ce week-end, c'est un festival de festivals. Donc le film américain est célébré à Deauville. Oliver Stone en est, tout comme Dylan Penn, la fille de Sean, qui présente Flag Days. On a Johnny Depp qui est à l'honneur pour City of Lies. L'avantage, par exemple, de Deauville, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut croiser des stars en dehors de tout le star system canois, par exemple, où les gens se promènent véritablement dans la ville. Il m'est arrivé un matin de tomber dans le brouillard sur quelqu'un qui demandait un croissant dans une boulangerie. C'était Harrison Ford, croyez-moi.
Magnifique.
On peut discuter margarine ou croissant au beurre avec le conducteur du Faucon Millennium, c'est quand même assez rare. Si vous voulez parler croissant avec Virginie Efira, c'est donc plutôt à Venise qu'il faut aller, c'est un peu plus loin, mais elle est membre du jury de la 78e Mostra jusqu'au 11 septembre. Plus modeste, mais aussi ce week-end, et donc plus accessible, Mamerce en mars, qui comme l'indique est à Mamerce dans la Sarthe, et en mars habituellement, parce que là c'est donc en septembre, because le Covid, ou la Covid, on ne sait toujours pas. Enfin, le festival a débuté hier et sa déclinaison de films européens se déroule jusqu'à dimanche. Pas un week-end de septembre sans un festival. Toronto du 9 au 18, suivront du 14 au 21 septembre Champs-Élysées Film Festival Paris. Contis, la 26e édition, ce sera du 15 au 19. Valenciennes du 24 au 29. La 32e édition de Dinard Film Britannique à l'honneur le dernier week-end de septembre du 29 au 3 octobre. Bon, et en même temps, il faut dire que la rentrée des festivals avait commencé avant en août, puisque rien que le week-end dernier, il y avait déjà Pellicula et Vatuire. Vous étiez, Laurie, on m'a beaucoup parlé de vos soirées. Et puis bien sûr, donc le festival d'Angoulême qui vient de se clôturer, où se lance, c'est un festival de plus en plus important, il est absolument incontournable maintenant, où se lancent bien des films à succès qui sortiront dans les mois à venir.
Encore une année donc riche en découvertes, un jury présidé par Nicole Garcia qui a récompensé des films comme Une histoire d'amour et de désir, ou encore Boîte Noire, d'ailleurs on recevra Pierre Ninet la semaine prochaine pour parler de Boîte Noire. Catherine Ball, bonjour, vous êtes journaliste cinéma au Parisien et vous étiez présente toute la durée de ce festival, une bonne édition pour vous ?
Ah oui, c'était une édition magnifique, c'était la 14e édition du Festival d'Angoulême et ce festival qui est donc cette année un mois et demi après Cannes, a prouvé que c'était vraiment le festival de la rentrée du cinéma, c'est-à-dire que c'est là qu'ont été présentés tous les gros films qui vont sortir en salle cet automne et même début 2022. Et donc on a vu des très très beaux films, des comédies, des films d'auteurs, mais vraiment des films de grande qualité.
Qu'est-ce que vous avez eu comme coup de cœur par exemple ?
Alors j'ai revu un film que j'avais déjà vu, qui est vraiment, je pense, le film événement de cet automne, qui est Aline de Valérie Lemercier. C'est le biopic de Céline Dion. Valérie Lemercier, elle a une idée complètement dingue. Elle a décidé d'incarner Céline Dion de ses 7 à ses 50 ans. C'est très émouvant. Donc voilà, j'ai adoré Aline. Les deux films qui ont été primés pendant le festival, enfin qui ont eu le plus de prix, c'est Une histoire d'amour et de désir et La vraie famille, Une histoire d'amour et de désir, qui est en salle depuis mercredi, qui est un très très beau film sur un jeune homme d'origine maghrébine qui découvre l'amour et le désir. Voilà, je vais pas spoiler plus que le titre déjà.
Non, et nous, mais on va en reparler délicat, aussi super dans la troisième partie d'ailleurs.
Et La vraie famille, ça c'est un deuxième film d'un réalisateur qui s'appelle Fabien Gorgeard. C'est un film vraiment bouleversant. C'est l'histoire d'une famille d'accueil qui élève un petit garçon depuis ses 1 an et demi. Et quand l'enfant a 6 ans, le père biologique décide de le récupérer. Et donc tout le film est centré sur la relation entre la mère d'accueil, qui est jouée par Mélanie Thierry, qui est incroyable, et le petit garçon. Ça c'est vraiment un film magnifique qui a beaucoup marqué à Angoulême. Voilà, je pourrais vous en citer une dizaine et encore il n'y aurait pas tous les beaux films que j'ai découverts.
Ce qui est encourageant pour le cinéma français et cette saison qui démarre.
Déjà, ce qui était très encourageant, c'est que les salles étaient pleines. Donc voilà, il y a le pass sanitaire, il y a les masques, mais le public était au rendez-vous parce que le Festival d'Angoulême, c'est un festival où toutes les séances sont ouvertes au public.
Merci infiniment Catherine Ball d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste au Parisien. Et puis ce qu'on peut dire aussi concernant les news de la semaine, c'est que l'industrie du cinéma reprend des couleurs. Les spectateurs sont de retour dans les salles. Pour en parler, j'ai avec moi Richard Patry, vous êtes président des exploitants. Les chiffres sont bons et encourageants, non ?
Alors, c'est encourageant, effectivement. Hein. On a eu un gros coup d'arrêt. Hein. On a eu un super début d'été, hein. Un petit peu aidé par la météo, faut bien l'avouer. Hein. Et puis, coup de frein brutal au moment de la mise en place du pass sanitaire. Hein. Je vous rappelle que nous, on l'a mis en place bien avant tout le monde, hein, le 21 juillet, et là effectivement on a perdu 40% de fréquentation, et depuis on à chaque semaine on en reprend un petit peu, et donc on a fini la semaine dernière avec des chiffres un peu encourageants. Donc c'est vrai que ça nous remonte un peu le moral, on a l'impression que nos concitoyens ont envie de venir au cinéma.
Pour terminer, je suppose que vous avez dû être rassuré aussi par le discours de Bruno Le Maire qui prévoit une aide spécifique pour les salles de cinéma.
Tout à fait. C'est-à-dire que ce qui nous a énormément rassurés, c'est que le gouvernement a pris conscience que nous avons payé un lourd tribut à la mise en place du pass sanitaire. Alors, il fallait le faire, hein, ça a marché, les gens se sont vaccinés et continuent à se vacciner. Néanmoins, les salles de cinéma ont perdu environ 7 millions de spectateurs, hein, près de 50 millions d'euros de recettes sur cette affaire. Le fait que le ministre de l'économie en prenne conscience, soit conscient de cette situation et nous permette à la fois de les pertes que nous avons subies, mais aussi de pouvoir rebondir, parce que ce qui est important, c'est qu'on puisse effectivement continuer à investir pour faire des salles de plus en plus belles, continuer à faire des beaux films, pour que le public revienne et profite à fond du cinéma en salle. C'est notre objectif.
Et on vous aidera à chaque fois sur Europe 1 du mieux qu'on peut. Merci beaucoup Richard Patry d'avoir accepté d'être avec nous. Revenir sur le succès de Kaamelott qui continue de vous réunir dans les salles obscures. Kaamelott d'Alexandre Astier qui a largement dépassé les 2 millions d'entrées et devient le plus gros succès en salle en France depuis l'apparition du Covid. Agathe Sofer, bonjour, vous êtes l'heureuse productrice de Kaamelott. Alors félicitations parce que plus de 2 400 000 entrées, c'est ça ?
C'est ça. Mais bonjour à tous, merci beaucoup.
Est-ce que vous attendiez un tel succès ?
Alors le jour où on nous a annoncé que le pass sanitaire allait démarrer le jour de notre sortie, pas franchement.
C'est ça.
On a eu un petit moment de solitude. On s'est dit, mon Dieu, 10 ans de travail et voilà, et le pass démarre, c'est pas de bol. Et donc on est quand même très content. Alors bien entendu, on est obligé de relativiser un peu le succès parce que comme tout le monde, comme OSS, comme même ceux qui ont marché, on a quand même perdu beaucoup d'entrées, forcément.
Bien sûr.
Et en proportion de beaucoup, ce qui fait que ça en fait beaucoup en moins. On se dit, de toute façon, la situation est tellement compliquée, puis on a l'impression que ça va durer encore pendant des mois. On est content de l'avoir fait.
Oui, et puis forcément, j'imagine qu'il y a cette frustration de se dire, si on fait ce score-là à cette période-là, ça veut dire que sans crise sanitaire, on peut considérer que vous auriez été peut-être au double.
Ah, peut-être le double, on ne sait pas. En fait, ce qui est frustrant, c'est de se dire, on a travaillé 10 ans et on ne saura jamais ce que ce film avait dans le ventre dans une période normale. Ça, on le saura jamais. Justement, est-ce que c'est le double? Est-ce que c'est 3 millions? Est-ce que c'est 5 millions? Est-ce que c'est plus? On n'a aucune idée de ça.
Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui.
Eh ben, merci à vous.
Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Il habite à Los Angeles, il côtoie toutes les plus grandes stars. Il est au courant de tout avant tout le monde. Il est invité partout et lorsqu'il n'est pas invité, il se faufile partout. On retrouve tout de suite Didier Alouche pour son JT d'Hollywood.
Salut Laurie, salut à tous. Et si on parlait Oscar ? Vous allez me dire qu'on a encore un peu le temps, que la 94e cérémonie des Oscars, ce ne sera que dans 204 jours, que c'est peut-être un petit peu tôt là. Ce n'est pas faux, mais en même temps, ce n'est pas tout à fait vrai. En effet, si la remise des jolies statuettes dorées n'aura pas lieu avant le 27 mars prochain, dans les montagnes du Colorado, sur les rives de l'Adriatique, au bord du lac Ontario, la bagarre a déjà commencé. Tantantant ! Il est bien mon tatata, non ? À l'heure où je vous parle, à Telluride, à Venise et dès jeudi prochain à Toronto, c'est parti pour les festivals d'automne où, comme on dit à Hollywood, c'est le démarrage officiel de la saison des prix. Ça commence déjà un peu à Cannes parce que tout commence à Cannes de toute façon, mais là, c'est parti pour de bon. Et la saison des prix, c'est peut-être un détail pour vous, mais à Hollywood, ça veut dire beaucoup. Ici, c'est tout simplement essentiel à la survie de ce qu'on pourrait appeler, pour aller vite, les films du milieu, souvent des films d'auteur au budget moyen, mais aux grandes ambitions artistiques. C'est bizarre et pas franchement compréhensible, mais les Américains ne vont voir ces films-là que si ils ont une chance aux Oscars, que s'ils sont dans la course. Et pour avoir une chance dans la compétition, quoi de mieux que de se faire remarquer dans un festival ? Nomadland, Oscar du meilleur film l'an passé, a commencé sa carrière en gagnant le Lion d'Or à Venise et le Prix du Public à Toronto.
J'ai rencontré des centaines de gens dans ce mode de vie. Je dis pas adieu quand ils repartent. Je leur dis toujours, on se recroisera sur la route.
Les festivals d'automne servent donc de rampe de lancement à toute une flopée de films aux ambitions dorées. Et le mot flopée n'est pas usurpé tant il y a de candidats et si peu d'élus. Il y a près de 200 films présentés à Toronto cette année. Et si la première projection d'un film se passe mal, tout est terminé. La course au prix, c'est impitoyable. Par contre, si ça marche pour le film dans ces festivals-là, alors tout roule. Un distributeur en achète les droits pour des dizaines de millions de dollars et c'est parti pour la course aux Oscars, tapis rouge en pagaille, projection prestigieuse et parfois même interview dans Clap. La fortune et la gloire. Que le film aille au bout ou pas, peu importe, il sera mis dans la course, les Américains iront le voir. C'est qu'ici, c'est de la folie. La course aux Oscars. Il y a même des pronostiqueurs qui ont déjà annoncé leurs favoris avant même que quiconque n'ait vu le moindre film. Allez, pour s'amuser, selon Gold Derby, le site de référence en la matière, l'Oscar de la meilleure actrice 2022 devrait se jouer entre Lady Gaga pour House of Gucci.
C'était un nom si doux à l'oreille, si séduisant. Synonyme de richesse, de style, de pouvoir. Mais c'était aussi une malédiction.
Et Kristen Stewart pour Spencer, celui du meilleur acteur entre Denzel Washington pour le Macbeth de Joel Cohen et Will Smith pour King Richard, où il joue le père des sœurs Williams.
Ça m'ennuie pas que vous disiez qu'on est dur avec elle. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on l'est.
Et pour le meilleur film, ça se jouerait entre Nightmare Alley de Guillermo del Toro et le nouveau Paul Thomas Anderson, qui n'est pas encore fini et qui n'a même pas encore de titre, en vous rappelant que personne, absolument personne, n'a encore vu ces films. J'adore Hollywood.
Merci Didier, à suivre donc pour les pronostics des Oscars qui auront lieu en mars prochain et on te retrouve la semaine prochaine pour d'autres infos depuis Los Angeles. Restez avec nous dans un instant, mon invité de la semaine, Laurent Lafitte, sera à mes côtés. Je l'attends avec impatience car son premier film en tant que réalisateur, L'Origine du Monde, est une vraie pépite.
Europe 1,
Clap, Laurie Choleva.
Merci d'être avec nous sur Europe 1, bonjour Laurent Lafitte.
Bonjour.
Je suis ravie de vous recevoir dans Clap. Alors, on parle aujourd'hui de L'Origine du Monde, votre premier long métrage que j'ai adoré. Et j'ai envie de dire, on en parle enfin.
Oui, ça a mis un peu le temps.
parce qu'on peut dire. Donc, sortie qui a été repoussée à cause de la crise sanitaire. Film qui faisait partie de la sélection du Festival de Cannes, qui a été donc repoussé aussi, enfin, qui n'était pas présenté à Cannes. Ouais. Alors, vous adaptez la pièce de théâtre de Sébastien Thierry. Vous avez eu un coup de cœur immédiat pour le sujet.
J'ai énormément ri. J'ai ri comme j'avais pas ri depuis très très longtemps, depuis des années. Vraiment, j'ai éclaté de rire, en avoir mal au ventre. Et puis après, j'ai essayé de comprendre un peu pourquoi. Et il y avait plein de niveaux de lecture différents qui se sont développés dans ma tête. Et plein de sujets que la pièce aborde. Et voilà, l'adaptation s'est faite presque malgré moi dans ma tête. Et c'est devenu très vite le sujet de mon premier film.
C'est vrai que c'est un bon terrain de jeu, on va y revenir. Mais alors, juste rappeler que c'est l'histoire d'un homme qui se rend compte en rentrant chez lui que son cœur ne bat plus.
C'est ça, son cœur ne bat plus, mais il n'est pas mort pour autant. Hein. Il marche, il parle, et évidemment, il est en panique. Hein. Je pense que si ça arrivait à l'un d'entre nous, on serait dans le même état. Et il est aidé par son ami, qui est joué par Vincent Macken, qui lui-même est vétérinaire, donc qui a quelques
vagues notions.
Notions, disons au moins anatomiques, mais qui n'est pas médecin, quoi.
C'est ça.
Donc il est déjà pas très bien pris en main, mais heureusement, sa femme, joué par Karine Viard, va l'emmener chez un coach de vie, Holistic Life Coach, qui est joué par Nicole Garcia.
Qui est génial.
Qui, elle, a la solution pour faire redémarrer son cœur, mais ça va être un peu compliqué.
Et sérieusement, que j'ai des photos du sexe de ma mère.
Alors vous devez prendre la photo.
C'est impossible.
Allez, au revoir.
Non, mais attendez, vous pouvez pas me laisser comme ça.
Vous avez 3 jours. Dans 3 jours, vous êtes mort.
Bonjour, maman.
Alors, vous avez un casting extraordinaire. Hélène Vincent aussi, qui est tellement drôle, ouais, dans le
formidable
film. Mais c'est vrai que ça fait du bien de voir un film où on rit quand même du début à la fin. Mais ça renouvelle aussi l'humour. C'est-à-dire que c'est un humour différent. Vous le dites, vous allez quand même très loin. On a l'impression que vous êtes tout autorisé sur ce film.
Oui, mais en fait, c'est ce qui m'a plu déjà dans la pièce. Donc, il fallait que le film soit à la hauteur de la pièce et notamment dans sa liberté de ton. Alors, moi, j'aime pas les choses qui sont juste provoques ou trash. Bon, ça m'intéresse
quand
pas du
gratuit
tout. Ouais, ça m'intéresse pas. Mais là, quand les situations de comédie sont tellement fortes que vous éclatez de rire et qu'en plus, ça raconte des choses, franchement, j'aurais eu tort de pas m'en emparer pour mon film.
Vous avez dit d'ailleurs au sujet de ce film, c'est la première fois que j'ai l'impression de faire du cinéma.
Oui, c'est vrai que longtemps, un peu naïvement, quand j'étais enfant, j'avais l'impression qu'il fallait être l'acteur pour vivre les aventures du personnage. Mmh. Et en fait, je me rends compte que c'est le réalisateur qui est le plus dans l'histoire, qui a vraiment l'histoire en tête dans sa globalité, le film en tête. Et j'ai ce plaisir que j'avais espéré, fantasmé quand j'étais enfant, je l'ai retrouvé en fait en réalisant plus qu'en jouant. On joue toujours, on joue pas dans l'ordre, tout est toujours très morcelé.
Et surtout que là, bon, vous réalisez et vous jouez. Donc
et
vous avez...
oui, en plus je joue dedans, je me suis pas aidé là.
Donc
mais,
vous avez vraiment la main surtout. Oui, c'était un enjeu pour vous de faire les deux. Vous avez posé la question.
Oui, je voulais que... c'est le personnage principal, donc il fallait que ce soit un minimum bien, on va dire. Mais c'est vrai que ça m'a pas mis la pression, mais c'est après coup, j'ai trouvé quand même que je préfère avoir un metteur en scène, quoi. Parce que un metteur en scène, il a un regard sur votre travail ou sur la prise que vous venez de faire qui est pas le même que vous, quoi. Donc il vous emmène à des endroits que vous avez pas imaginé, que vous avez pas anticipé, des nuances de jeu, et ça m'a un petit peu manqué au montage, mais j'espère que ça se voit pas.
Ah bah ça se voit pas du tout, j'allais dire vous êtes remarquable, et c'est justement ce genre d'humour où tout passe par des petites nuances de mimique, de regard, de subtilité.
Oui, il faut que ce soit fin parce que le sujet est un peu effrayant quand même et on peut très vite basculer dans quelque chose d'indigeste et donc on était sur le fil tout le temps, quoi. Ce qui est important, je pense, c'est d'être sincère. Et nous, on a essayé d'aborder cette histoire comme un drame, ce que c'est, hein, c'est quand même un drame, mais un drame qui fait rire.
Et c'est un drame déjà à la base par sa situation familiale, parce que là, je ne trahis rien, mais ça s'ouvre quand même sur un couple en difficulté.
Oui, c'est sûr que ça...
C'est un peu bancal.
Oui, c'est un peu bancal. Ouais. J'ai voulu rajouter des scènes d'intimité entre mon personnage et sa femme pour voir où est-ce qu'ils en étaient dans leur couple. Et c'est un moment de leur vie où ils n'arrivent plus à jouir au sens propre comme au sens figuré, quoi.
On apprend des choses aussi sur vous, Laurent Lafitte, grâce à ce film. Par exemple, la façon dont vous célébrez la fête des voisins.
Oui, alors là, ça va paraître bizarre, hein, pour les auditeurs.
Il faudra aller voir le film,
en tout cas.
Pour comprendre cette vanne, il faudra aller le voir.
Il y a plein de manières de célébrer la fête des voisins et je pense que celle du film est une option tout à fait envisageable.
On peut parler aussi du titre du film.
Ouais.
L'origine du monde, c'est aussi un clin d'œil à ce célèbre tableau.
Oui, bien sûr, oui, c'est un clin d'œil à l'œuvre de Courbet. Mmh. Même si Courbet, c'est le sexe de la femme et mon film, c'est pas du tout ça. Si le... Si le sujet d'Embarras, c'était le sexe de la femme, j'aurais fait un film misogyne. C'était pas du tout le but. Non, là, c'est le sexe de la mère. Alors, je veux pas rentrer trop dans les détails.
Non,
mais...
pareil, faut aller le voir.
Voilà, c'est la mère, le nœud du problème.
Ah oui, alors, d'ailleurs, le film devait s'appeler la chatte à ma mère, c'est ça?
Non.
La chatte de Aladdin, c'est quoi? Pardon.
C'est la pièce qui...
Oui, Sébastien Thierry. Oui, c'était ça, Thierry, la chatte à ma mère. Oui, c'est ça, non, je l'ai bien lu.
Est-ce qu'on va faire peur aux gens, on va leur donner envie d'y aller? Non, le film est plus digeste que son sujet, que son pitch. Oui, à un moment, ça a été une idée, mais parce que Sébastien Thierry, il aime bien provoquer. Donc, il a pensé à ce titre-là pour la pièce, et Jean-Michel Ribe, qui a mis en scène le spectacle, lui a dit, je peux vraiment décemment pas programmer aux têtes du rond-point une pièce qui s'appelle La chatte à ma mère. Donc, il va falloir trouver un autre titre.
Dans les
aussi.
Salles de cinéma, n'en parlons pas.
Ouais.
C'est un film qui était sélectionné au Festival de Cannes en 2020, donc le label 2020, donc le festival qui n'a jamais eu lieu. Mm-hmm. Je crois que vous avez monté les marches cette année, mais voilà, le film n'a pas été présenté. Et c'est quelque chose que vous avez regretté. Vous aviez envie que le film soit donné en pâture au public cannois.
Bah oui, parce qu'à Cannes, c'est un peu comme à l'opéra, quoi. C'est un public qui s'exprime beaucoup. Et c'est un film qui suscite beaucoup de réactions. Donc, ça m'aurait vraiment fait... Au-delà du plaisir que mon premier film soit sélectionné, que ce soit une comédie, j'avais vraiment un petit plaisir malin de sale gosse à vraiment vouloir vivre cette projection et avoir les réactions. Ouais.
Donc ça ne vous fait pas peur, la critique en général?
Non, par contre, je préfère vraiment quand j'adore faire l'unanimité, je vous assure.
Mais franchement, vous le faites souvent.
C'est gentil.
C'est vrai.
Bon ben là, on verra.
Oh, je pense que si, parce que vraiment, je répète, c'est un film tellement drôle, tellement original, burlesque et en même temps qui raconte des choses sur la vie, les rapports humains,
ouais.
La famille.
Oui, on le décortique beaucoup, mais c'est vrai que mon but ultime, c'était vraiment de faire rire, de provoquer les rires, et ça a été mon obsession pendant toute la fabrication du film.
Alors, Laurent Lafitte, nous sommes sur Europe 1. Est-ce que pour nous, vous avez une exclue ou une anecdote que vous n'auriez pas racontée ailleurs? Parce que comme vous allez faire beaucoup de promos, vous faites beaucoup de promos pour ce film. Une anecdote de tournage ou quelque chose qui se serait passé ou un fou rire?
Alors des fous rires, il y en a pas mal. La première rencontre dans le film entre le personnage d'Hélène Vincent et celui de Vincent McCain.
Donc votre mère et votre meilleure amie.
Voilà, ma mère et mon meilleur ami. J'avais pas prévu que ce soit un si long plan séquence, mais je les ai trouvés tellement drôles et le rythme qu'ils ont imposé, eux, était tellement plus efficace que tout ce que j'aurais pu recréer au montage, que j'ai laissé la prise comme ça en entier. Et ça, c'était une grande crise de rire et un grand bonheur.
Ouais, cette scène, elle va devenir culte. Est-ce que vous avez d'autres projets en tant que réalisateur?
Oui, je réfléchis là. Je travaille à deux sujets et je sais pas encore lequel va l'emporter.
Lequel vous allez choisir? Ouais. Bah, faites les deux.
Oui, c'est peut-être que j'en ferai un l'un après l'autre. Ouais, c'est possible.
Toujours aussi surprenant? C'est votre univers?
Je sais pas, je pense que c'est moins transgressif, mais c'est des personnages très puissants. Ouais.
Mais avec toujours cette envie de faire rire et de rester dans cet humour.
Ouais, ouais.
Et en tant qu'acteur, alors je sais que vous avez tourné Au-delà du périph' 2 avec Omar Sy.
Oui, c'est ça, oui. On a tourné Au-delà du périph' qui est la suite de l'autre côté du périph'.
Oui, c'est ça.
Voilà, et ça, c'est pour Netflix.
Oui.
Et pour le cinéma, je viens de tourner un premier long métrage d'une réalisatrice qui s'appelle Céline Devaux. Avec Blanche Gardin et Marthe Keller, qui sortira, je pense, dans une petite année. Et puis le théâtre, je reprends le théâtre, je vais jouer Don Juan.
Ah.
Puisque c'est l'année Molière, donc pendant toute la deuxième partie de saison à la Comédie Française, on joue quasiment que Molière.
Magnifique.
Et voilà, je vais m'attaquer à Don Juan.
Oh bah, on sera au rendez-vous aussi. D'ailleurs, ce film, L'Origine du Monde, ça mélange vos deux passions. C'est l'adaptation d'une pièce de théâtre pour le cinéma.
Oui, absolument. La base, ouais, l'envie de départ, c'est né suite à un coup de cœur théâtral. Mais j'ai vraiment essayé d'en faire un objet de cinéma. Je voulais pas que ça ressemble à une captation de théâtre. Je voulais vraiment qu'on soit dans...
C'était quoi la difficulté majeure, alors?
Alors, c'était de déthéâtraliser un peu les dialogues, de les rendre un peu plus spontanés, un peu plus naturels, on va dire. Même si c'est un bon... qui veut pas dire grand chose, mais et puis le rythme et surtout le jeu, quoi. Pas d'extravagance dans le jeu, réussir à jouer petit, rentrer, sincère et intense.
C'est réussi. Merci beaucoup. Vous restez avec nous sur Europe 1. On va parler maintenant des films de votre vie, Laurent Lafitte.
Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Nous sommes toujours sur Europe 1 et je suis en compagnie de Laurent Lafitte. Merci d'être là, Laurent. Alors, on va évoquer les films de votre vie dans quelques instants, vos meilleurs souvenirs de cinéma. Mais je rappelle que L'Origine du Monde sera en salle mercredi 15 septembre. Alors, Laurent, votre meilleur souvenir de cinéma ?
Alors, c'est pas un souvenir de film, c'est un souvenir de cinéma, de lieu, de cinéma. C'était un petit cinéma qui s'appelait le cinéma Saint-Charles, dans le 15e arrondissement de Paris. C'est le premier qui est devenu un supermarché, malheureusement. Et c'est le premier cinéma où je suis allé tout seul. Donc, j'avais, je pense, 12 ans. Alors, je faisais plus que mon âge. Et il y avait des films qui étaient interdits aux moins de 13 ans à l'époque. Donc, j'avais trafiqué une photocopie de ma carte d'identité pour pouvoir voir ces films. Et j'y allais plusieurs fois par semaine, tout seul.
Et aujourd'hui encore, vous aimez voir des films seuls dans la salle ?
Oui, j'aime bien, ouais. Ouais, j'aime bien.
Quelle heure, votre séance préférée ?
Alors, quand j'y arrive, j'aime bien le matin. Mmh. Mais quand je joue le soir au théâtre, c'est un peu compliqué.
C'est compliqué.
Sinon, non, j'ai pas de préférence.
Peu importe, ouais. Ok. Votre première grande émotion au cinéma ?
E.T. de Steven Spielberg.
Chef-d'œuvre.
Ouais, chef-d'œuvre.
Film de 1982.
1982, voilà, donc j'ai 10 ans.
Et qui est bientôt 40 ans, E.T.
Ouais.
C'est un film qui, bon, forcément, qui vieillit un peu par les effets spéciaux qui sont vieillants, mais je trouve que ça vieillit pas par ce que ça raconte et par l'émotion que ça dégage.
Oui, d'ailleurs, Spielberg avait fait une version, il avait retouché les effets spéciaux en numérique, et c'est une version qu'il a complètement désavouée et qu'il a vraiment retirée du circuit. Il y a cette magie de l'animatronique, de la marionnette.
Ouais.
Et puis c'est un film qui a plein de niveaux de lecture, niveau de lecture premier degré, voilà, une histoire de ce petit extraterrestre. Et puis cette métaphore sur l'enfance qui part, dire au revoir à son enfance.
Oui, c'est vrai.
Et c'est un film là-dessus, sur le départ de l'enfance, le début de la préadolescence. Et c'est pour ça que le départ de cette scène extraordinaire du départ de E.T. avec la musique de John Williams qui monte sa crescendo, qui fait corps avec le découpage, avec le montage, voir cet enfant qui regarde son enfance partir.
Je suis toujours là.
C'est bouleversant. Ce film me touche à chaque fois.
Ouais, moi aussi, je pleure à chaque fois que je le revois. Votre séance de cinéma la plus dingue ?
C'est les premières. Je ne veux pas faire un rappel promo, c'est la vérité.
Non, mais c'est toujours bon de le faire, et comme ça m'évite à moi de le faire. Donc
non, mais en plus, vraiment, sincèrement, la première fois que j'ai montré à un vrai public, on va dire, donc pas des invités, L'Origine du Monde, donc mon premier film. Ça a été une émotion extraordinaire d'entendre les gens rire au moment
là où vous aviez
prévu.
Oui, c'est ça.
C'est un moment extraordinaire. Ouais.
Là, vous avez fini, je suppose, toute la tournée province.
Quasiment, on en a encore une ou deux.
Ça reste des bons souvenirs.
Franchement, c'est fantastique. À chaque fois, je me dis que je vais pas regarder le film, je l'ai vu 100 fois, et je reste rien que pour entendre les rires.
Ouais. Le film que vous avez honte d'aimer.
Ben, il y en a aucun, parce que franchement, même les films, oui, je vois quand un film est un peu naze, mais il me plaît quand même, je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais honte. J'ai jamais honte d'aimer un film, jamais.
Ça reste une œuvre.
Ouais, je vais jamais avoir honte de dire que j'aime tel ou tel film qui est mineur. Pourquoi j'aurais honte? Non.
Le film que vous revoyez sans cesse?
Vertigo, sur froide. Hitchcock. Ouais, alors un petit peu moins maintenant, mais ça a longtemps été un peu obsessionnel.
C'est vrai.
Ah ouais, je l'ai regardé, j'ai vraiment décortiqué celui-là.
Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a tout dans ce film.
Ah, il est fascinant.
Il y a la mise en scène, l'intrigue, tout.
Tout, James Stewart, Kim Novak, la plus belle partition de Bernard Herrmann. Il y a toutes les obsessions d'Hitchcock, le côté fétichisme. Il y a un côté romantisme noir. J'adore ce film, le technicolor, les couleurs comme ça un peu saturées. C'est extraordinaire.
Le génie d'Hitchcock.
Ah ouais.
Votre comédie romantique préférée ?
Alors, il y en a plein que j'aime beaucoup. J'ai vraiment hésité avec Quand Harry rencontre Sally ou Coup de foudre à Notting Hill. Bon. C'est vrai que Chopper and the Corner.
Quand Harry rencontre Sally, qu'on nous a cité la semaine dernière.
Ah merde, bon, ça va. Donc, j'ai bien fait
bien.
De remonter un peu. Je pense justement à la base de la comédie romantique, qui pour moi, même s'il y en avait avant, mais Chopper and the Corner.
Lou Beach.
Ouais, Lou Beach. La boutique au coin de la rue, voilà, c'est une histoire d'amour géniale qui a donné après You've Got Mail avec Tom Hanks.
Avec encore James Stewart.
Oui, avec
enfin,
encore.
Pour
oui,
The James Chapel, The Corner.
Oui, encore, oui, avec James Stewart. Ouais, ouais, James Stewart. Ah bah oui, mais James Stewart, il revient souvent dans mes films.
Il fait partie de vos idoles.
Ouais, 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 complètement.
Alors, et puis ça, c'est, le, bon, c'est une comédie romantique, c'est aussi un film qu'on adore revoir au moment des fêtes de Noël.
Chapel on the Corner, oui. Bah ouais, c'est joyeux, c'est ça, ça termine bien. Il y a une comédie musicale qui s'appelle She Loves Me, qui est tirée de cette histoire-là, qui est absolument géniale et que j'ai adapté en français avec Judith Elzen et qu'on avait monté aux Têtes de Paris avec Cadmerade il y a un petit moment, ça n'a pas marché du tout. C'était un très beau spectacle.
Bah, ouais. Faut le refaire.
She Loves Me, ouais.
Le film dans lequel vous aimeriez vivre
là, alors, je vais repasser un peu de temps avec James Stewart. La vie est belle.
Ah oui, ça c'est... Je crois quand que ça fait oui, je crois bah que ça oui. fait partie du top 3 de tout le monde,
c'est
ça
quand
fait
même
l'unanimité.
Pas mal, quoi. Alors bon, c'est un peu passéiste hein, de vouloir vivre dans ces années-là, mais je sais pas, il y a quelque chose dans c'est plus l'univers de Capra que l'époque. Il y a quelque chose de complètement poétique
c'est une ode à la vie.
Oui, c'est ça, c'est une ode à la vie, ouais, ouais. Et puis le film a beau être un peu naïf, il est tellement sincère que qu'il fonctionne.
Le film de votre jeunesse?
Je pense que globalement, moi, j'ai beaucoup quand même beaucoup tourné autour de Spielberg,
Indiana Jones,
toute ma jeunesse. Ouais, vraiment. Le cinéma d'aventure, le...
Les Dents de la Mer, ouais, jusqu'à La Liste de Schindler.
Bah là, je sais plus des films de ma jeunesse. Là, c'est des... là, je suis déjà, là, je suis un peu
jeune
je
adulte.
Encore... Je suis encore jeune, mais ouais.
Ouais. Et il vient de réaliser West Side Story, que moi j'attends
absolument
avec impatience.
Ouais, ouais.
Est-ce qu'il y a un film que vous recommanderiez à un enfant?
E.T.
Oui.
Ah bah oui,
ça me semble,
direct.
Oui.
Et alors, avant E.T., c'est pas le premier film que j'ai vu au cinéma, vraiment le tout premier, c'était une reprise de La Guerre des Boutons.
Ah oui.
D'Yves Robert. Et ça, c'est un bon film.
Ouais, c'est un bon classique aussi. Ouais. Le film de votre adolescence?
Stand By Me.
Pourquoi?
Bah, je sais pas, j'ai eu une identification complète. Avec ces adolescents, je me suis vraiment vu en eux. J'avais
mais c'est un vrai
que...
film générationnel.
Ouais, vraiment, ouais, je pense. Mm. Et à l'endroit où j'allais à la campagne le week-end, il y avait une voie ferrée. Et je... Évidemment, avec des potes, on suivait la voie ferrée, persuadé qu'on allait vivre des aventures pas possibles. Mais bon, malheureusement, non.
Plein de rêves dans la tête.
Ouais, non, Stand By Me, c'est un très, très, très beau film.
Ouais, c'est un beau film. Et la musique qui existait déjà avant le
oui,
film
oui,
et
oui.
qui, voilà, quoi. Ouais. Qu'on associe au film. Ouais. Votre bande originale de film préférée, tiens, justement.
C'est Bernard Herrmann. On revient à Sueur Froide, à Vertigo. C'est pas la seule de Bernard Herrmann que j'aime. J'aime beaucoup aussi ce qu'il a écrit pour Pas de printemps pour Marnie. Enfin, il y en a plein hein, qui sont sublimes. Mais franchement, alors là, bande originale de film, c'était très très dur de choisir parce que j'en aime énormément. Quoi. J'aime beaucoup Francis Lai. J'aime beaucoup Desplat. J'aime beaucoup.
C'est important la musique au cinéma.
Ah bah c'est très, très, très important, très important. Alors moi j'ai pas de compositeur pour mon film. J'ai tout piqué chez Gabriel Fauré, donc j'ai que de la musique classique. Mais ouais, j'adore le.
Il y a des très belles parties. J'ai en tête une scène de votre film avec justement cette partition de musique classique et toute l'adrénaline que ça procure la musique classique. Ça va crescendo avec les images.
Ouais. Ils sont tous très les grandes compositions symphoniques au cinéma sont très fortement inspirées du classique. Quoi.
Alors, la bande originale qui vous émeut à chaque écoute?
Le Mépris.
Ok, reprise dans de nombreux films. Le Mépris de Godard, mais qu'on...
Ça, je la connais par cœur, je l'ai entendue 200 fois. Et pourtant, à chaque fois, elle marche.
Elle est sublime. La bande originale qui vous met de bonne humeur?
Le générique de début des gendarmes et des extraterrestres.
Ok.
Qui je trouve le film est.
C'est le grand écart avec James Stewart.
Oui, c'est ça qui est intéressant. Mais cette musique me donne la pêche.
Bon, on l'écoute justement. Celle que vous écoutez pour faire du sport ou pour vous motiver?
Grease.
Ah bah Grease, magnifique. Ah bah,
Grease,
John Travolta, Olivia Newton-John.
Ah oui, ça donne
vous,
la patate.
Vous maîtrisez le pas de danse ? Je vais pas vous le demander, de toute façon non. On est à la radio, donc ouais. Vous pouvez tout nous dire.
Mais même à la télé, je vous aurais dit que non, parce que non, 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 pas possible.
Et le Grease, vous l'avez vu pas mal de fois ?
Grease, j'ai vu pas mal de fois et je l'ai vu sur scène.
Et
je l'ai
aussi,
vu à Londres, dans une très bonne, très très bonne production. Ouais. C'est un spectacle génial.
Merci beaucoup Laurent Lafitte, c'était un vrai plaisir de passer ce moment avec vous. Et donc je rappelle que l'Origine du Monde sera en salle le 15 septembre et qu'il faut absolument aller le voir. Et on se quitte maintenant avec la musique que vous écoutez pour faire du sport, c'est Grease. Bande originale de Grease sur Europe 1, la musique que Laurent Lafitte aime écouter pour faire du sport, et on le comprend.
14h, 15h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Nous sommes de retour sur Europe 1 pour clap, dernière partie. À mes côtés, Karel Fitoussi, vous êtes journaliste à Paris Match, bonjour.
Bonjour Laurie.
Et Victor Bonnefoy du podcast Pardon le cinéma.
Bonjour Laurie.
Alors une semaine cinéma qui célèbre la diversité sous toutes ses coutures. Alors il y a la diversité culturelle avec les studios Marvel qui dégainent enfin Shang-Chi, leur premier super-héros asiatique, ou encore le bouleversant film de Laila Bouzid, une histoire d'amour et de désir. La diversité littéraire avec un triomphe, film dans lequel Cadmerad enseigne à des détenus Beckett en prison. La diversité générationnelle avec Gogo, film dans lequel une dame de 94 ans intègre l'école de son village et devient la plus vieille écolière du monde. Et on commence avec un triomphe d'Emmanuel Courcol avec Cadmerad dans le rôle d'un comédien frustré par sa carrière qui n'a jamais décollé et qui va se retrouver à enseigner le théâtre à des détenus. Un film inspiré d'une histoire vraie, une très belle découverte. On écoute un extrait de la bande-annonce et on en parle juste après.
Vous n'êtes pas dans un théâtre ici, vous êtes dans une prison, avec des délinquants, des criminels.
Non, tu parles pas comme ça, mon.
Attends, je te parle comme je veux, je suis metteur en scène ici.
Moi, je veux que les spectateurs, ils oublient d'où vous venez.
Je crois que l'on oublie d'où on vient, non ?
Le public est saisi du grand théâtre.
Je crois que vous allez faire une tournée. Pas pour eux que t'as fait ça, c'est pour toi.
Et alors ?
J'ai pas le droit d'exister, moi.
On écoute vos avis.
Une merveille, une pure merveille, un des meilleurs films que j'ai vus de dernièrement. C'est formidable comme film.
Il y a vraiment des moments de grâce qui, vraiment, où on est suspendu à l'écran et on a envie d'en savoir plus. C'est peut-être pas quelque chose d'exceptionnel en termes de mise en scène ou quoi, mais je trouve que c'est vraiment un film qui fait du bien et c'est vraiment important d'aller le voir.
J'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est vraiment le meilleur rôle de Kad Merad depuis fort longtemps. Je prédis une nomination, plein de nominations au César.
C'est super bien joué, l'histoire est très touchante et en plus c'est tiré d'une histoire vraie, donc ça je ne savais pas avant d'aller le voir.
C'est un très bon film de comédie qui en rapport sur le théâtre, sur le fait du jeu. J'ai plutôt très bien aimé le film.
Alors voilà, apparemment vous avez tous beaucoup aimé Victor Bonnefoy. Vous en avez pensé quoi d'un triomphe ?
Eh ben j'ai trouvé ça plutôt intéressant. J'étais pas particulièrement passionné par le sujet à la toute base, et puis en y allant, je me suis rendu compte que c'était déjà servi par des comédiens de talent, c'est-à-dire que ce soit à la fois Kad Merad et toute l'équipe qui l'entoure tout au long du film. On peut citer que ce soit Salim Keshish, que ce soit jusqu'à David Alaya, un petit comédien lyonnais qui se retrouve dans le film et qui forme tous ensemble une équipe assez passionnante, assez touchante, et puis avec un propos dans le film moi qui me passionne, à
puis
savoir
Laurent Stoker aussi, Marina Hans qui joue la directrice aussi de la prison, et effectivement tous ces comédiens qui jouent les détenus.
C'est ça, et tout ça pour raconter quelque chose qui me passionne, à savoir la question justement des prisons françaises, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est adapté d'une histoire vraie qui à la base s'est déroulée en Suède et qui est transposée dans des centres carcéraux français. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on n'est pas là pour traiter les détenus sur ce qu'ils ont fait, on n'est pas là pour les traiter vis-à-vis de leur passé. Leur peine est déjà en cours, c'est pas important. L'important, c'est d'essayer de comprendre ce qu'ils vont devenir. Ce qui est important en fait, c'est de savoir ce qu'ils vont faire dans le futur. On leur traite par les actes présents, et en ça je trouve ça passionnant. Alors oui, le réalisateur Emmanuel Courcol oublie un petit peu par instant qu'il un film, et donc niveau image on n'est pas toujours servi par de la grande mise en scène, mais en même temps les sentiments y sont, la passion des personnages y est, et en ça on passe un moment qu'on regrette pas du tout, et on sort même un peu avec les larmes aux yeux, et ça fait du bien.
Moi je trouve que cette scène finale, donc je ne trahirai rien, mais de Kad Merad sur scène reste un grand moment de cinéma pour moi.
C'est la scène où il y a le plus de mise en scène, et c'est en ça qu'elle est justement passionnante. C'est que c'est un moment où Emmanuel Courcol se dit mais ouais, si je la mettais en scène, si je filmais par cet axe là, si j'avais cette lumière jaune qui venait taper le côté de son visage, et forcément dès qu'il y a encore plus de cinéma à l'intérieur, on en sort heureux.
Moi j'ai un petit peu de mal avec l'injonction au feel good et au plaisir qui est tant brandie par ce film, sur l'affiche, sur le titre, etc. Ceci étant dit, c'est extrêmement efficace, l'histoire vraie que je ne connaissais pas est incroyable, parce qu'elle offre au film une fin que la plupart des scénaristes n'auraient pas osé écrire, et cette fin incroyable transforme cette histoire d'évasion par le théâtre en fable sur la liberté. Donc on a les larmes, ça fonctionne. On est en territoire connu, c'est dans la veine de The Full Monty, de Esprit Rebelle, de Sister Act 2. Hein, c'est un prof qui va redonner foi et dignité à des gens qui n'en avaient plus. Donc après la rédemption par le striptease, par le hip-hop, par la natation ou le gospel, on a ici la rédemption par le théâtre. C'est des charentaises confortables, et je suis sûre qu'après 2 mois de vacances, il y a plein de gens qui seront ravis de les retrouver.
Vertu cathartique de l'art. Alors on passe à une histoire d'amour et de désir. Très joli film de Laila Bouzid sur une rencontre amoureuse de deux étudiants de culture et d'éducation différentes. Et la réalisatrice, je cite, a déclaré « J'ai fait ce film pour initier à l'amour, au désir et à la fusion des deux. Sélectionné à Cannes, primé à Angoulême, le film fait plutôt l'unanimité. » On va écouter ce que vous en avez pensé, vous, justement.
Ça part sur quelque chose qui paraît assez banal, une histoire banale de jeunes gamins qui se découvrent. Puis petit à petit, on entre quand même dans quelque chose de beaucoup plus profond.
C'est très bien filmé, en même temps très pudique.
J'étais très intrigué et j'ai été pris donc du début à la fin. C'est vraiment une histoire filmée par une réalisatrice, tout en sensualité. Vraiment, la réalisation est très très fine et ouais, c'est vraiment très très bien.
Karel Fitoussi de Paris Match, vous en avez pensé quoi ?
Alors moi j'ai adoré, je trouve que c'est une splendeur. C'est le second film d'une réalisatrice tunisienne, Leila Bouzid, qui a fait ses études en France à la Sorbonne et à la FEMIS, donc je pense que c'est très personnel. C'est délicat et émouvant comme le récit d'un premier amour, comme ces années d'étudiant où tout est première fois et tout résonne plus fort. Ce n'est qu'une histoire d'amour et de désir à la fois universelle, intemporelle, comme le résume le titre. Et c'est tellement plus que ça. C'est aussi un film, un formidable film politique qui a un pied de nez à tous les stéréotypes de genre, aux clichés sur la banlieue, sur l'islam, qui voudrait que la femme soit soumise et l'homme conquérant. Là, c'est l'inverse. C'est un jeune homme un peu timide, mal dans son corps, qui a du mal à se retrouver dans l'idéal viril qu'on a tendance à imposer aux garçons, que la société a tendance à imposer aux garçons. Et c'est un film qui inverse tous les codes qu'on nous a habitués à considérer comme neutres. Donc c'est un film qui commence par ce garçon sous la douche qui se refuse à notre regard, et c'est un film qui se termine sur son corps et sa jouissance, qu'il assume enfin. Et c'est sublime. Le dilemme moral qui est au cœur du film, c'est quasiment du Jane Austen. C'est est-ce que jouir appauvrit les sentiments? Est-ce que succomber à son désir appauvrit les sentiments? C'est un sujet qu'on va retrouver dans le film de Jacques Audiard, Olympiade, bientôt. Et je trouve que Une histoire d'amour et désir le traite sans doute plus intensément. Si, Victor. Je trouve qu'il réussit bien plus son pari sur cette question-là. C'est à la fois un film sur l'incommunicabilité au sein d'une famille ou d'un couple et à la fois la reconquête du dialogue, le plaisir des mots, puisque c'est des étudiants en littérature. Ils étudient la littérature arabe du XIIe siècle.
Vous êtes conquise, quoi.
Qui compte beaucoup de textes érotiques et ça, c'est une surprise, voilà. Je suis totalement conquise.
Ouais, totalement, ça s'entend. Victor ?
Eh ben moi aussi, plutôt conquis par le film, parce que c'est un vrai plaisir de regarder ces jeunes qui sont vraiment des bombes à retardement sexuel, qui se demandent à quel moment elles vont réussir à imploser dans ces cours de lettres modernes où on étudie que des textes qui parlent constamment d'érotisme, et on a ces jeunes qui regardent les textes en se disant qu'est-ce qu'on va en faire de tout cet érotisme au bout d'un moment. Et c'est un film qui parle pas justement que d'érotisme et de désir, ça parle aussi de cette impossibilité du désir, ce qui est pas simple parce que car elle en parlait justement, qu'on est bloqué justement dans tous ces sentiments, on est bloqué dans les injonctions de la société qui nous disent on doit rentrer dans telle case. Et c'est marrant parce que c'est un film qui fait assez écho à celui dont on a parlé la semaine dernière, qui était Fragile, et justement sur ces retournements des valeurs et sur comment aujourd'hui on peut traiter le prisme des histoires d'amour masculines et féminines par d'autres prêts, par des prismes de fragilité, par des prismes justement de remise en question de certains dogmes de virilité qu'on a imposés. Le comédien principal qu'on avait déjà vu dans Sex Education ici, pour moi, est fascinant justement par cette fragilité-là et s'en est en ça passionnant. Alors oui, moi j'ai quelques limites sur le fait que justement ça ne raconte que ça, ça ne raconte qu'une histoire d'amour et de désir, et en même temps on est tendu comme les personnages tout le film, on se demande à quel moment ils vont exploser, on a envie qu'ils explosent, ça nous rend fou, et quand ils finissent par exploser c'est formidable, et je me permettrai de rajouter aussi que Olympiade de Jacques Audiard, j'ai hâte qu'on en parle parce que c'est vraiment formidable aussi.
Mais on en parlera, ne vous inquiétez pas. Je vais vous laisser la parole, Victor, puisqu'on va parler aussi de Shang-Chi, c'est le nouveau Marvel, c'est l'apparition donc du premier super-héros asiatique, et je sais que vous avez beaucoup aimé.
Une bonne surprise. Personnellement, j'aurais préféré que ça reste un peu plus en kung-fu traditionnel, un peu moins magie, mais un film quand même plaisant et très agréable à regarder.
La culture asiatique, moi j'adore, elle est bien représentée dans le film.
J'avais regardé le trailer, mais j'étais quand même agréablement surpris. Beaucoup d'effets spéciaux, ça part dans tous les sens, mais vraiment très cool.
C'était trop bien, et comme je suis fan de Marvel, bah j'ai kiffé.
À la fin, il y a un peu, on monte en intensité et peut-être un peu trop, et j'arrivais plus trop à suivre parce qu'il y avait des gros, enfin ça devient un peu des gros monstres, gros dragons, bidules, etc. Mais tout ce qui était sur le conflit vraiment humain entre les persos, ça marchait vraiment bien, je trouve.
Franchement, c'était un bon film. La suite, elle va être incroyable, évidemment, comme tous les Marvel de toute façon.
Je t'ai entraîné pour que les hommes les plus dangereux au monde ne puisse pas te tuer. Mon fils, l'heure est venue pour toi de prendre place à mes côtés. You better watch out, 'cause it's my time. Je ne te rejoindrai pas.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Marvel a un peu le cul entre deux chaises, et ce depuis plusieurs mois, parce qu'ils ont eu tout leur gros axe Avengers, etc., qui s'est terminé, et où toutes les histoires ont été plus ou moins conclues. Et il fallait relancer un petit peu la machine avec des nouveaux personnages qui vont pouvoir constituer de nouvelles équipes et constituer des sous-sous au box-office pour pouvoir remplir avec plaisir les caisses du CNC et financer notre cinéma français. Et du coup, j'avais un petit peu peur, surtout qu'ils ont essayé tout d'abord avec un Black Widow il y a quelques mois, qui était raté, qui était un flashback à moitié, qui racontait pas grand chose et qui servait surtout à amener des séries pour Disney+.
Et qui a bien marché quand même.
Ouais, mais on ne comprend pas toujours, hein, les vertus parfois des entrées cinéma sont impénétrables. Et du coup, ils arrivent là avec Shang-Chi qui est une vraie proposition et qui rentre mine de rien dans toute une direction qu'a Disney depuis très longtemps, à savoir vouloir draguer le marché chinois. Mmh. Il l'avait fait avec Mulan, il l'avait fait avec plein de choses, et on se dit, est-ce que justement ça ne va être que cette drague là, ou est-ce que on va avoir la chance d'avoir un peu de cinéma à l'intérieur? Et vous savez quoi?
Alors,
Il y a du cinéma dedans, c'est plutôt intéressant, notamment sur les scènes de combat qui sont enfin novatrices. On sort enfin de certains dogmes qu'on nous impose depuis des années. Bon, on sent qu'ils ont révisé Tigre et Dragon avant et qu'ils se sont dit ah ok d'accord, on peut mettre du ralenti, on peut mettre des câbles, ça va être rigolo. On retrouve des comédiens justement de ce cinéma chinois hongkongais. On a notamment Tony Leung qui est un plaisir de retrouver, alors dans un registre totalement différent de choses comme In the Mood for Love ou quoi que ce soit. Il a peu à défendre, mais il est très 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 investi dans le film. On nous propose de renouveler un peu la
comédien
direction.
Comédien de Wong Kar-wai.
Exactement. On nous propose ou de plein de choses. Hein, de Hard-Boiled, etc., de plein de trucs. C'est intéressant de voir justement que la direction artistique se renouvelle, que la réalisation se renouvelle. Alors, comme d'habitude avec un Marvel, c'est trois fois trop long, hein. Globalement, ça aurait pu durer 1h40 et pas 2h20, que ça aurait été un peu sympathique.
Mais comme il y a beaucoup de bruit et qu'il se passe plein de choses, ça passe.
Oui, ça clignote, on est content, c'est divertissant. Et en fait, je crois que c'est ça que je demandais au film, juste d'être divertissant et de me proposer quelque chose de nouveau. Et c'est ce qu'a fait Shang-Chi, me proposer quelque chose de nouveau et quelque chose de divertissant. Alors, ça réinvente pas la poudre, ça réinvente pas un cinéma incroyable, mais tout de même, on boude pas son plaisir devant le film. Et ça fait longtemps que je ne m'étais pas retrouvé dans cette situation-là face au Marvel. Et on attend les prochains, qui seront notamment Les Éternels de Chloé Zhao, qui a réalisé Nomadland, le retour de Sam Raimi, qui va nous faire un Doctor Strange. Bref, plein de films intéressants qui arrivent. Est-ce que Marvel va réussir à regagner encore une fois le cœur des fans avec une nouvelle phase de sa saga du MCU? En tout cas, Shang-Chi, c'est un plutôt bon démarrage qui est vraiment pas déconnant.
C'est bien parti. Et alors moi, qui ai mis ma fille en classe de maternelle, rien à voir, hein, pas de transition entre Shang-Chi et la maternelle.
Et la classe de maternelle, c'est très étrange. Hein.
Mais j'ai mis ma fille à la maternelle il y a trois jours pour la première fois et j'avais très envie de vous parler d'un documentaire touchant, Gogo, sur l'histoire vraie de la plus vieille écolière du monde. Elle s'appelle donc Gogo, elle a 94 ans, elle vit dans un village au Kenya et elle a décidé d'apprendre à lire et à compter en intégrant une classe de CM2. Donc enfant, elle avait été interdite d'école et là, elle réalise son rêve. Alors ses études ont été stoppées par la crise sanitaire, mais elle espère vite reprendre et franchement, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Écoutez cet extrait.
Je m'appelle Priscilla Sitiene, j'ai 94 ans. Je suis une élève de CM2.
Combien font 4 fois 3 ?
60.
Concentre-toi un peu, Gogo.
J'ai du mal à entendre. Quand j'étais enfant, je devais travailler dans les champs et surveiller les vaches. Et puis, en ce temps-là, l'école, c'était pas important.
Combien font 10 multiplié par 10 ?
100. Ça fait 100.
Oui, 100. Ça fait 100. Bravo, c'est très bien.
Je veux réussir mon examen. Il y a encore trop de jeunes mamans qui doivent abandonner l'école.
Quelle jolie bande-annonce et quel très beau documentaire qui soulève la problématique de l'éducation en Afrique, en particulier celle des filles. Gogo, une héroïne inspirante, donc une leçon de courage qui nous rappelle la chance que nous avons ici.
14h, 15h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Et puis on aime les belles histoires sur Europe 1, donc on aime les partager avec vous. J'espère qu'on vous a donné envie d'aller au cinéma. Merci d'avoir été au rendez-vous de ce nouveau clap. Merci à mes intervenants du jour. Franck Vallière qui était avec moi en début d'émission, Karel Fitoussi et Victor Bonnefoy. La semaine prochaine, je serai en compagnie de Pierre Ninet pour parler de Boîte Noire. En attendant, restez à l'écoute d'Europe 1 et surtout, bien sûr, continuez d'aller au cinéma.